Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 10 juillet 1990.
Cette seconde journée doit être une journée où vous posez toutes les questions. N'oublions pas qu'au plan philosophique, on avance dans la mesure où l'on se pose des questions, pas seulement recevoir, pour s'éveiller, du reste, à la recherche philosophique. C'est le propre du philosophe, hein. C'est qu'il questionne la réalité qu'il expérimente pour savoir ce qu'elle est dans la mesure où il peut saisir ce qu'elle est. Et n'oublions pas que de fait, nos interrogations, c'est notre intelligence en appétit. Et les interrogations au plan philosophique, au plan d'une philosophie qui essaie de comprendre la réalité, sont diverses. Ceci relève justement du fait même que nos contacts avec la réalité par les sensibles propres sont divers. On essaiera de comprendre ça, parce que c'est là où on voit l'harmonie parfaite de notre intelligence avec l'univers. Là, il disposera le principe d'harmonie. C'est pas un principe, c'est une constatation. Et va tout de suite, hein, mon corps, il existe. Je ne mets pas ça tellement en cause. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous passez de l'inconscient merveilleux, puisqu'il y a des gens qui trouvent que c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de dormir. C'est évident, c'est ce qu'il y a de plus facile. On descend le fleuve, on se réveille. Il y a une expérience tous les matins. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais on se réveille et on constate qu'on va prendre possession de ce que représente notre corps. Et on interroge ce corps comme quelque chose qui fait partie de nous. Répondre à ceux qui considèrent que le corps est quelque chose d'accidentel. Pour Descartes, la substance matérielle quantitative est quelque chose de second. Pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel parce que je n'ai pas d'expérience de mon âme séparée de mon corps. Tu vois, moi, peut-être que vous, la méditation transcendantale peut arriver à nous faire croire au bout d'un certain temps que oui, on peut émerger. Toutes mes expériences sont liées à mon corps. Toutes mes expériences. Et je vois que je suis lié à ce monde. À partir de quel moment vous avez compris que vous étiez lié à ce monde, être dans le monde, comme dira Merleau-Ponty, comme diront les fémologues, c'est pas Merleau-Ponty qui l'a inventé ça, c'était déjà avant lui. Être dans le monde, c'est toucher cette réalité qui est extérieure à moi.
c'est la sentir, c'est la voir. C'est la goûter. Alors, comprenons tout de suite qu'il y a quelques grandes interrogations qui sont les grandes pistes de recherche de ces quelques jours. Je vous les rappelle. Parmi vous, il y en a beaucoup qui le savent. Mais ça ne fait rien, il faut quand même toujours se le rappeler. Il faut tout le temps venir à l'interrogation. C'est ce qu'il y a d'intéressant du reste dans notre monde d'aujourd'hui. C'est qu'on revient à l'interrogation. Mais la scolastique décadente cherchait des définitions. On est fatigué de chercher des définitions et on veut remonter à la source. Parce que la définition n'est pas une source. On veut remonter à la source en interrogeant. Et on interroge. Et on interroge. Alors je vous les donne, les grandes pistes de recherche. La première interrogation, c'est toujours qu'est-ce ? En grec, puisque l'origine est aristotélicienne, tiesti, qu'est-ce ? Déjà Platon pose la question du tiesti. Hein. C'est sûr. Tous les philosophes se posent la question, qu'est-ce ? En quoi ? D'où ? En vue de quoi ? Et puis alors, aussi sur le modèle de quoi? Et puis en dernier lieu, le comment, qui est très important. Comment cette chose-là se dévisse? Comment faire la cuisine? De faire des œufs pochés, comment ? Des œufs au plat, comment ? Petit pape, qu'est-ce que c'est ? Non, ça c'est le gosse qui dit ça. Mais celui qui doit travailler dit comment ? Oui, comment c'est l'interrogation de celui qui doit travailler, qui doit réaliser ? Il réalise. Un mode d'efficacité ne se pose plus que la question du comment. J'avais un de mes amis qui était à l'ONU et qui s'intéressait beaucoup aux interrogations. Alors il disait, c'est très curieux, l'Europe, l'Amérique, c'est le comment. L'Inde, c'est la fin. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tous nos pourquoi. Et notre cher Auguste Comte dit que l'interrogation du pourquoi, c'est les enfants. Et le comment, c'est le positivisme de l'adulte. Et donc à partir d'Auguste Comte, il ne doit plus y avoir qu'une seule interrogation, le comment. Laissez les pourquoi. Et alors nous allons nous poser la question des pourquoi. Heureusement que le Seigneur dit que les secrets sont révélés aux enfants qui posaient pourquoi. Et c'est vrai, c'est peut-être ça être un enfant, c'est de poser les pourquoi. Je crois que c'est ça le sens évangélique, d'être comme des enfants aujourd'hui. Ils se posaient pourquoi. Après tout, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intelligent chez l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Première fois, quand il y avait le TGV, je me souviens, c'était impressionnant de voir la TGV arriver. Un gosse, il fait ça. Il dit, qu'est-ce que c'est, maman ? Et qu'est-ce que la mère répond ? Ah, TGV, hein ? Une locomotive. Mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive ? Mais c'est une locomotive. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi une locomotive ? Oui, le gosse interroge. C'est très intéressant d'écouter les interrogations des enfants. Et je dis, c'est beaucoup moins intéressant d'écouter les réponses qu'on lui donne. dorénavant, on ne lui donne pas de réponse. On répond par des mots. Comme si le mot correspondait à l'interrogation. Vous voyez, on est une civilisation des mots. Les mots recouvrent la réalité. Parce qu'on n'a plus le courage de regarder la réalité en face. On n'a plus le courage. On regarde les mots. C'est très important de voir que l'interrogation veut atteindre qu'est-ce la réalité. Et la réalité, pour le philosophe, c'est l'homme. En quoi? Alors, voyez, les interrogations correspondent à la découverte des principes. Principe propre. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? C'est ce qui se termine la recherche. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Quand j'interroge, je suis dans la recherche. Je cherche, j'interroge. C'est pour ça que l'interrogation est ce qui anime mon intelligence, ce qui éveille mon intelligence. Tant que j'interroge, mon intelligence est en éveil. Je n'interroge plus mon intelligence, c'est au repos. Alors, il y a des gens qui sont au repos parce qu'ils ont découvert. Et quand on a découvert, on rebondit pour aller toujours plus loin. Alors, on découvre un principe propre. Ce principe propre peut être une cause. Une cause propre. Et alors, on va préciser en fonction de l'interrogation, les causes qu'on découvre. Qu'est-ce qu'on découvre quand je pose la question « qu'est-ce ?» Je découvre la cause propre, déterminante. La cause qui détermine. On appellera le logos. En grec, le logos, la détermination. On traduit la forme et on dira la cause formelle. Alors comprenez bien, c'est la détermination qu'on découvre. Quand je dis qu'est-ce que c'est que ça? Une locomotive. Je détermine. Puis alors vous posez la question après, en quoi? En quoi je découvre aussi un principe? Interrogation conduit à un principe. Et en quoi principe cause la matière? Alors on dira la cause matérielle. Je vais presque mieux dire la matière. C'est plus juste. On découvre la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? C'est ce qui fonde. C'est le réceptacle. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, mais qui conditionne tout. La matière, on va y arriver, vous allez voir, très vite. Tout. Alors, la source efficace, la cause efficiente, c'est la source. D'où vient la chose? Et quand vous regardez un instrument nouveau, vous regardez d'où ça vient, de quel atelier ça sort. De quel atelier ça sort? D'où ça vient? La marque. Made. Ça sort de là. Et vous voyez d'où ça vient. Puis après, en vue de quoi? Ah, ça c'est la fin. La fin. Ce qu'il y a d'ultime. Tout l'ordre de la finalité. Sur le modèle de quoi? Cause exemplaire. Et le comment? Comment cela peut-il se faire? Je découvre des lois. Mais la différence entre la cause et la loi, ça c'est capital. C'est toute la différence entre l'un. instrument nouveau, très perfectionné. On vous donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la loi par laquelle vous devrez utiliser cet objet. Toute méthode est une loi. Une loi d'usage. Par là, vous arriverez au but. Alors, il y a des lois qui ne sont pas au-dessus des méthodes, qui sont bien, bien plus profondes et qui vous donnent les relations. Mais c'est toujours un peu méthodique, la loi. Passage de la loi à la méthode, hein, c'est très important à bien voir ça et à bien saisir. Alors, voyez, au plan philosophique, je me pose la question. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Et je reviendrai toujours à cette question. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Première chose que je découvre, ben, c'est le corps. Ça, je peux pas nier. Si je dis que l'homme, c'est l'âme, ah, je pourrais discuter. Est-ce que vraiment il y a une âme? Est-ce que ça, c'est pas un mythe? C'est pas un très vieux mythe. Vous dites que le corps, c'est difficile hein, de refuser. Alors, le lien de l'homme et du corps, ça, il y aura des positions différentes. Mais j'ai un corps. J'ai un corps. Ça me gêne beaucoup. Mais j'ai un corps. Oui, c'est très gênant d'avoir un corps. J'en ai un. Je l'habite plus ou moins bien. Je suis plus ou moins bien dedans. Quand je vois le corps de mon voisin, je dis, oh, c'est, tiens, je serais mieux dedans. C'est une meilleure habitation. Parce que mon corps vieillit avec la roula, là, oh, ça serait merveilleux. Et on fait des rêves comme ça. Le corps de l'aigle, oh, si je pouvais être un aigle. C'est vrai, il a un corps aussi. Le corps de la vache, ça... C'est rare que vous avez le désir d'être dans le corps d'une vache. Moi, je sais pas, j'ai jamais fait de rêve d'être dans une vache. Tandis que l'aigle, ça, oui, ça, c'est quand même un peu mieux. Oui, c'est curieux, hein. Le corps, l'expérience du corps, que je ne peux pas nier. Il y a une différence du corps. Je pars de l'expérience. Et je pars de l'expérience en essayant de découvrir ce qui m'est habituel. C'est une chose très curieuse. Je fais l'expérience du corps tous les jours. Tout le temps. Je ne peux pas le quitter. Alors il vaut mieux se mettre bien avec lui. Il vaut mieux se mettre bien avec lui. Parce que si je ne suis pas bien avec lui, c'est ennuyeux. Toute la journée, je serai de mauvaise humeur. Parce que je ne le quitte pas. Je ne le quitte pas, je ne peux pas le quitter. C'est quand même très curieux. Tandis que je peux très bien, à certains moments, oublier mon âme. Mon âme spirituelle. Ah, je vais me reposer. J'ai trop travaillé intellectuellement, je vais me reposer. Oublions mon âme. Je vais faire un oubli. Le corps. Dites, je vais oublier mon corps. Est-ce que ça vous êtes posé la question d'oublier votre corps? Impossible. Au contraire, quand vous dormez, ah, je laisse reposer. Et vous êtes heureux de vous reposer, normalement. Si vous n'arrivez pas à dormir, c'est ennuyeux. Mais vous pensez encore plus à votre corps quand vous n'arrivez pas à vous endormir. Quand vous dormez tout de suite, vous n'y pensez même plus, ça y est, c'est parti. En TGV très rapide pour une direction inconnue. Vous voyez, cette expérience tout à fait simple, mais très extraordinaire. J'ai un corps. Je le touche. Alors je peux me poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que le corps? En quoi le corps? D'où ça vient? En vue de quoi ce corps? Sur le vous ces questions-là. Ça m'intéresserait que je serais pendant un quart d'heure de silence, chacun répondrait. On ramasserait tous les papiers et on verrait toutes les réponses. Ce serait très amusant. Très amusant de faire comme ça. Si on avait le temps, on le ferait. Chacun se reconnaîtrait un tout petit peu dans... Qu'est-ce que c'est que le corps? Alors, première constatation, hein. Je m'aperçois que par le corps, je suis en communion avec tout l'univers. Je crois que c'est la première chose que le philosophe doit faire. Je parlais de l'aile, je parlais de la vache. La vache a un corps. Et même, on dit aujourd'hui, hein, c'est que biologiquement, c'est le petit cochon ou le gros cochon qui a un corps le plus proche du nôtre. C'est pas très agréable, c'est comme ça. Au point de vue du corps, je suis en communion le plus proche avec le... Encore plus que d'une certaine manière que le singe. Organiquement. Organiquement. C'est pour ça qu'on fait des expériences avec les cochons. Pas très belle, hein, pas très belle. On ne peut pas trop en parler de ça. C'est tellement d'être impressionné que organiquement, c'est. Point de vue de la vie, ça. On reviendra là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le corps est quelque chose de fondamental par où je suis en communion avec tout l'univers. L'univers n'est pas étranger à moi. Je le porte en moi par mon corps. Ça, c'est la constatation première et fondamentale que fait le philosophe. Je ne suis pas étranger à ce monde. Je le porte en moi. Je suis distinct, c'est sûr, mais je ne suis pas étranger. Même le monde des étoiles. Alors on me dit qu'elles sont très éloignées, très très éloignées. Je ne dis rien, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas été beaucoup plus loin que la Lune. C'est déjà pas mal comme petit voyage. Je n'ai pas été cosmonaute, mais un ami de moi était cosmonaute. C'est suffisant. L'expérience de mes amis, c'est mes expériences. Et on a cet avantage aujourd'hui d'avoir cette expérience, d'avoir été dans la Lune. Je ne sais pas si ça change quelque chose à la philosophie, mais ça change quelque chose à l'expérience de l'homme. On a pu regarder la Terre de la Lune. Et je vois quand je m'élève, l'homme est une petite fourmi. Déjà en avion, hein. Qu'est-ce qui reste? Et c'est moi. Oui, mon regard sur le corps, plus la technique s'intensifie, permet des connaissances éloignées, plus le corps se perd dans tout l'ensemble. Quand je suis ici près de vous, on est bien distinct, hein. Pas de fusion possible. On est bien distinct. Si je m'élève très haut, source de toutes les différenciations. Par où je suis distinct des autres. C'est que mon corps. Non. Et c'est pour ça que je peux rêver, voyez, de prendre le corps d'un autre. Il y a ces rêves. Hein. Ces rêves, on les trouve dans des traditions religieuses comme ça. On trouve de ces rêves. Il y a des traditions religieuses qui sont des rêves étonnants. Hein. Après ma mort, ben oui, je pourrais continuer de vivre dans un autre homme. Après tout, au point de vue de ce fondement, rien ne me permet de dire l'inverse. Puisque je suis parent avec tout l'univers. J'ai une bonne naturalité avec tout l'univers. Par la causalité matérielle. Par la matière. Alors pourquoi, après avoir vécu un certain temps, ben oui, je n'aurais pas un autre corps. Oui, ça existe, hein, dans la mentalité, j'allais dire dans la mémoire des hommes, dans toutes les traditions religieuses. Et ce qui est très curieux, c'est que ça reprend très fort aujourd'hui, même chez des chrétiens. C'est une question qui se pose tout le temps aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas bon, ça? Je crois que c'est très intéressant de voir la petite parcelle de vérité qu'il y a, ça. On va dire tout le temps, mais non. C'est interdit, la foi m'interdit de dire, attention, regardez au plan philosophique. Regardez au plan philosophique. Il y a une parenté avec tout l'univers. Je ne peux pas la nier. Alors je me trouve plus ou moins bien dans certains lieux. À l'équateur. Oui, je suis moins bien que dans les pays tempérés. Et pour comprendre le bienfait d'un pays tempéré, il faut quelquefois aller à l'équateur pendant un certain temps. Se chauffer. Puis au pôle Nord. Moi, comment on peut habiter ? Vous voyez donc, il y a dans l'univers des points par lesquels je suis plus en code naturalité, d'autres points je suis moins en code naturalité. Tout ça, c'est d'essayer d'étudier ce fondement commun. C'est très juste de dire que je suis en parenté avec tout l'univers. Cette sorte de panthéisme. Cette sorte de voir comment, après une vie, je peux en recommencer une autre. Pourquoi pas? Je suis pas d'accord, hein. Dites pas que je suis d'accord avec ça. Mais j'essaie de comprendre comment ces mythes sont nés. C'est quand même intéressant. Ça existe. J'ai pas le droit de dire que ça n'existe pas, parce que j'ai aucun a priori. Au point de vue philosophique. Je peux dire que je suis d'accord ou pas d'accord, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Ça existe. Ces transmigrations, ces changements. Et je vois que ça renaît dans un monde très cultivé comme le nôtre. Super cultivé. Toute la science, très développée, la technique très développée, ne me donne aucun argument contre ça. C'est curieux. Alors d'où ça vient? Eh bien oui, ça vient de la cause matérielle. La cause matérielle. C'est la cause matérielle qui explique comment il y a ces nostalgies très curieuses d'être un peu psychanalyste avait pas fait une très grosse chute. Oui, ça s'est percute. Il avait cru que c'est passé, vous m'avez dominé, vous êtes bien remarché après, mais il y a quelque chose qui reste. Quand je monte à l'escalier, si je fais pas attention, quelqu'un de plus fort que moi dégringole à toute vitesse et me fait tomber. Et moi, je dégringolerai. C'est pas l'expérience, pas la peine. Mais on a tous fait cette expérience. Des chutes. Et on appelle ça des chutes. C'est très curieux. Comment se fait-il? On parlait de la station droite. Hier. Ah oui, oui. Et la station droite, là, non, on tombe. Et ça ne supprime pas la station droite. Et on tombe. Et on se casse une jambe, on se casse un bras, on se casse un nez, on se casse les dents, on se casse la tête. Et une fois ça va un peu plus loin, on se casse carrément. Il y a une cassure. C'est quand même très important de comprendre ça. Cette parenté fondamentale avec l'univers qui est mu. Je suis un être qui est mu radicalement. Il y a une force en moi qui me fait tendre toujours, toujours vers le plus bas. Le gosse, quand il commence à marcher, si on ne fait pas grande attention, on le voit s'asseoir. Surtout s'il fait un peu gros, ça chie. Et il se repose. Et quand il continue de marcher, fatigué. On est né fatigué. C'est très curieux. Et on a une nostalgie du repos. Ah, une nostalgie terrible du repos. Et chez certains êtres, les marmottes, bienheureuses marmottes. Elles sont en rouge pendant 6 mois de l'année, vous voyez ça, c'est une béatitude. Et on a en soi ça. Mais je voudrais que vous le sentiez, parce que ça fait partie de la philosophie, ça. Mais on commence la philosophie du corps par le mode de la matière. Et quand je dis matière, alors philosophiquement, qu'est-ce que c'est que la matière? C'est cette capacité radicale. j'ai cette expérience, cette force du sens d'inertie terrible, ce poids. La matière, c'est donc ce principe, c'est un principe, la matière, philosophiquement, c'est un principe. Et je dirais, pure potentialité. Si vous êtes toute la philosophie de la matière, on verrait pure potentialité. Ça va très loin, ça. Une potentialité radicale en moi. Et donc, il y a, par le fait même qu'elle possède potentialité radicale en moi, il y a une soif constante de changer. Tout change. Ça a été émis chez les premiers philosophes grecs. Le pataraille, tout coule. Je ne peux pas descendre deux fois dans mes fleuves. Et je ne peux pas rattraper ce qui était passé hier. C'est très ennuyeux, ça. À cause de la matière. À cause de la matière, il y a un passé. Il y a un passé qui compte. Je me suis fatigué hier. J'en paie les conséquences ce matin. Je suis fatigué. Si je n'étais pas fatigué hier, je serais d'ailleurs le meilleur aujourd'hui. Je suis fatigué. C'est la matière, ça. C'est le corps. Le corps pèse là-dessus. Il y a un passé. Il y a un présent. Il y a un futur. Le point de vue de la temporalité. Comme on dit aujourd'hui, la temporalité, c'est à cause du corps, ça. Le corps me met dans la temporalité, donc dans le fait de subir l'usure. Je subis l'usure. Et encore une fois, subissant l'usure, je vais autant que je peux opter pour un lieu où je m'userai moins. Ah, c'est pas la vie religieuse, hein. Ça ne vous avez rien. C'est drôle, c'est pas le corps qui fait entrer dans la vie religieuse. C'est pas le corps qui me met dans des situations périlleuses, jamais. Au contraire, si je suivais la loi du corps, je serais toujours à la l'infirmerie. Le moins de fatigue, gardez des réserves. Ça, c'est le corps. C'est la matière. La matière est en moi, il descend. C'est très radical, vous savez. Répétez bien quelque chose de très intéressant à voir avec tout ce qui se recherche aujourd'hui, parce qu'on est très axé sur la temporalité et sur la corporéité et sur le point de vue de la matière. On est un siècle de la matière. Ah oui, on est le siècle de la matière. Vous savez bien cette constatation que je vous ai déjà dit à certains, ce que les Américains avaient fait dans l'année précédente, en disant c'est l'année de la Terre. Ça m'a beaucoup impressionné, ça. Chaque année, ils qualifient l'année, au terme de l'année, pour la nouvelle année. Et alors devant tous les cyclones, devant tous les raz-de-marée, devant tous les événements, ils ont dit, c'est l'année de la Terre. L'année de la Terre, c'est l'année de la matière. Et nous sommes liés à ça. Nous sommes liés au cyclone. Nous sommes liés au raz-de-marée. On est en qui parle là. Donc, temporalité, on est localisé. C'est le corps qui nous localise, qui nous met dans tel lieu, et qui devrait subir, justement, le cyclone. Et d'autre part, on ne subirait pas. Qui nous fait subir la chaleur. Qui nous fait subir le froid. Pourquoi ? Parce qu'on est une partie de l'univers. Localisée. On peut s'enfuir. Ça ne va pas très vite. Les forces de la nature dans lesquelles on est sont infiniment plus fortes que ce que je possède. Et pour nous rassurer, par exemple, quand on disait que la bombe atomique, c'est pas grand-chose comparativement à l'énergie de ce qui existe dans les orages. Ça nous a tout à fait rassurés. Et c'est vrai que c'est très vrai. enveloppé d'énergie qui nous dépasse complètement. La seule différence, c'est que ces énergies-là, on ne les a pas captées. Alors il y a un vieux fatalisme en nous. On subit ça. On subit un orage. Quand il y a un orage, vous subissez. Vous ne dites pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter ? Oui, les vignerons font ça. Ils prévoient. Ils essaient de détourner. Déviation. Ne pas le capter, ils ne peuvent pas. Dévier, simplement. Pour le voisin. J'arrête les fraternels. Évitons cet orage, faut-il laisser un tout petit peu pour que ce soit le voisin. Nous, on va en éviter. Mais on ne fait pas plus. Ce qui est très curieux, c'est qu'un sont des forces qui agissent sur notre corps, quand même. Hein. La bombe atomique, ça agit sur notre corps. Eh bien, quand ces forces-là, on peut les capter, on est... Vous voyez, on est beaucoup plus sensibilisé à ça. Il faudra se demander pourquoi. Est-ce qu'on est plus sensibilisé aux œuvres artistiques ou à la culture? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser. Pour connaître le corps. Pour connaître le corps. C'est toujours pour connaître le corps que je me pose ces questions-là. Je crois que le corps, c'est le lieu de la contingence, de la corruptibilité. Ah. C'est par le corps que je vais connaître la maladie et la mort. Ah, c'est curieux. C'est par le corps. La mort me serait complètement étrangère si je n'avais pas le corps. C'est pour ça que quand je vois un animal malade, boiteux, mourant, ça me touche toujours un peu. Parce qu'après tout, hein, je suis semblable. La mort, elle est présente.
savoir de la potentialité. Alors ça me fait découvrir quelque chose de très important, c'est que le corps est source de multiplicité d'anarchie. La maladie, philosophiquement, c'est l'anarchie. Les anciens disaient ça très bien. Vous connaissez une anarchie. Il y a quelque chose d'anarchique dans toute maladie. Et la victoire de l'anarchie, c'est la mort. La mort est une victoire de l'anarchie. Donc d'une révolution. Fondamentalement, toutes les révolutions proviennent du corps. Vous allez me dire pourquoi alors, si tout de suite un théologien vous allez dire, mais là, comment se fait-il que les anges puissent être des révolutionnaires? C'est autre chose. Je ne parle pas des anges, je parle au plan philosophique. Au plan philosophique, la source de toute division, c'est le corps. Vous voyez, c'est l'aspect du corps, cause matérielle, c'est ça que je voudrais que vous saisissiez. Et c'est quelque chose de substantiel, pure puissance. Je porte en moi, n'y pensez pas trop, hein, parce que ce serait angoissant. Ah, c'est intéressant, hein, l'angoisse. Ce serait angoissant. Vous portez en vous virtuellement la mort. Et c'est ce qu'il y a de juste dans l'existentialisme quand il définit l'homme par la mort. Faut pas dire que c'est idiot. Non, c'est pas idiot. C'est partiel. C'est très partiel. Alors c'est une hérésie parce que c'est partiel. On fait de la partie un tout. Faire de la partie un tout, c'est ce que c'est. C'est faux. Mais c'est partiel. Il y a quelque chose de juste. L'homme est voué à la mort. Je ne dis pas que l'homme est pour la mort, mais l'homme est voué à la mort. Je suis voué à la mort. Je porte en moi quelque chose qui fait que la mort, c'est présent. C'est pas loin. C'est pas loin. Philosophiquement parlant, la mort n'est pas loin. Et quand je souffre de trop, j'appelle la mort. C'est curieux. Et, vous voyez, on symbolise la mort. On en fait un personnage. Alors que c'est pas vrai. C'est pas un personnage, la mort. Du point de vue de la réalité, c'est la contingence qui l'emporte, c'est l'anarchie qui l'emporte, c'est la victoire de l'anarchie, de la potentialité en moi. Philosophiquement, c'est ça. Et on l'hypostasie. Et quand vous voyez ces danses macabres, il y a quelque chose au plan philosophique. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment se fait-il que le besoin de l'homme d'hypostasier la mort? C'est pour la rendre présente. On a besoin de la voir. Alors je ne la vois pas du tout. C'est souterrain. C'est terriblement souterrain. Le corps possède en lui quelque chose qui radicalement est inintelligible. Jamais je pourrais épuiser ma connaissance de mon corps. Je porte donc quelque chose en moi qui est radicalement irrationnel, inintelligible, et qui me conduit nécessairement à la mort. C'est pas drôle. Première leçon de philosophie. Le corps lié à la matière, lié à la mort, lié à l'irrationnel. Irrationnel. Pourquoi y a-t-il cet appel à l'irrationnel? Vous voyez, ce besoin l'humanisme radical, c'est celui-là. C'est curieux. Dénominateur commun. Il y a un dénominateur commun de mon corps avec l'univers. Il y a cette cause matérielle. Vous voyez, je vais beaucoup plus loin que les biologistes qui essaient de découvrir le point de vue de la source de la vie. Mais non. Alors, je regarde la mort en fonction de la vie. Mais non. La mort, je la regarde en fonction du corps, au plan philosophique. Et je dis que la mort, c'est la défaite de la vie par rapport au corps. C'est cette ankylose de la vie. Tout s'est ankylosé. Mais pourquoi l'ankylose? C'est la victoire du corps. Le corps ankylose. Ce qui va toujours vers le bas. C'est le propre de la cause matérielle d'ankyloser. C'est peut-être par là qu'on comprend le mieux ce que c'est que la cause matérielle. La cause matérielle, elle pétrifie les choses. Elle les ankylose. Et quand elle est substantielle, elle est capable de tout arrêter. Et la mort, c'est cet arrêt radical, fondamental. Radicalement, c'est le corps. Et tout ça n'est pas étranger. Je ne peux pas dire.